Inter, le 18-20.
Et c'est le téléphone sonne. Le départ de la route du Rhum, ce sera dimanche entre 13h et 14h à Saint-Malo. Direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On part en automne et on arrive en été sous les cocotiers. La course a 40 ans. 123 engagés cette année, 6 catégories avec des multicoques et des monocoques. Très attendus évidemment, les maxi trimarans, les ultimes bateaux XXL capables de voler 32 mètres de long, 23 mètres de large, 35 mètres de haut pour le mât. 15 tonnes environ, ils peuvent filer à 45 nœuds, 85 km/h. Ces maxi trimarans vont peut-être battre le record du dernier vainqueur en 2014, Loïc Perron. 7 jours, 15 heures et 8 minutes. La route du Rhum, des marins, des aventuriers, des technologies de pointe évidemment, une endurance indispensable. Toutes les questions que vous vous posez sur cette exceptionnelle compétition, 01 45 24 7000, le standard est à votre disposition, le site de l'émission franceinter.fr. Et pour vous répondre, nos invités sont dans le studio de Radio France à Saint-Malo. Merci à Alain Fauché qui nous a permis de réaliser cette émission. Dans ce studio, il y a Fabrice Rigobert du service des sports de Radio France, passionné de voile. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Pierre.
Alors, à vos côtés, des concurrents au départ, Loïc Perron qui est là, le vainqueur, je le disais, de l'édition 2014. Cette année, il revient sur un petit voilier, on en parlera. Loïc Perron, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Jérémy Bayou est aussi avec nous dans la catégorie IMOCA. Il sera à bord de son bateau monocoque Charal. Bonsoir Jérémy Bayou.
Bonsoir à tous.
Et puis Samantha Davies, une navigatrice, et oui, sur les 123 skippers au départ de cette route du Rhum, il y a seulement 6 femmes. Samantha Davies, pour la première fois de sa carrière, elle va faire la route du Rhum. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous serez à bord de votre bateau monocoque Initiative Cœur. Et puis on attend dans quelques instants Fabrice Sébastien Josse qui sera avec nous. Et lui, il est dans cette catégorie ultime à bord de son Maxi Edmond de Rothschild. Et on va tout de suite aller, je pense, au standard maintenant pour écouter les premières questions des auditeurs. On a aussi reçu beaucoup de questions sur le site de l'émission face à cette aventure formidable, ce défi lancé à l'Atlantique.
Le 18-20, Pierre Veil, le téléphone sonne.
Premier appel, Christian est à Grasse. Bonsoir Christian, merci de nous écouter.
Oui, bonsoir.
Nos invités vous écoutent.
Eh ben, écoutez, merci de prendre mon appel. Voilà, ben, je pense que comme tout le monde, on est tous admiratifs de ce que font les skippers avec leurs bateaux. Je pense que c'est une performance incroyable. Donc, ces bateaux qui sont appelés plus ou moins Formule 1, je crois. Donc, je ne ferai pas de relation, de comparaison avec les vrais pilotes de Formule 1. Mais en tout cas, je sais que ce qu'ils font est absolument incroyable. Voilà. Par contre, moi, j'aurais ma question principale et celle-ci. Je suis un petit peu, même si je m'y connais un petit peu, je suis un peu profane en voile, et c'est vrai que j'entends parler de la course du Rhum, la route du Rhum, pardon, le Vendée Globe, la course du Figaro, le Tour du Monde en solitaire, l'America's Cup, et c'est vrai que pour des profanes, parce qu'on est tous des profanes, quelle est la différence entre toutes ces courses et quel est l'enjeu en fait, voilà. Donc c'est ma question.
Et bien pour vous répondre, un spécialiste, merci. C'est Fabrice Rigobert du service des sports de Radio merci. France. Fabrice.
Chaque course a sa particularité. Vous avez des courses qui se déroulent en équipage, vous avez des courses en solitaire. On parlait de Vendée Globe, c'est la course mythique en solitaire. La route du Rhum, c'est en solitaire. On parle de la Coupe de l'América, c'est une coupe bien sûr mythique, c'est l'un des plus vieux trophées sportifs au monde qui n'a jamais été remporté par les Français. Et nous, dans la voile française, on a tendance à beaucoup mieux se débrouiller dans cette voile en solitaire. Et je vais laisser la parole à Loïc Perron qui s'est illustré.
Pas seulement,
bien sûr. C'est pour ça que je vais vous donner la parole, Loïc, dans quelques instants. Mais voilà, chaque course a sa spécificité, solitaire, duo, équipage. Et là, nous sommes dans les courses les plus mythiques, Route du Rhum et Vendée Globe. Je vous le disais il y a quelques instants, Loïc.
On va essayer de schématiser. C'est vrai, quand on fait du bateau, on peut être ou tout seul, ou à deux, ou en équipage. Et on peut être sur une, deux ou trois coques, à peu de choses près. Alors c'est vrai que déjà, ça fait pas mal de variables. Hein, Et après, on peut naviguer entre trois bouées ou trois continents, éventuellement. Et en France, c'est vrai qu'on a cette particularité d'avoir beaucoup de marins qui sont capables de, d'un peu tout faire. Les anglo-saxons, à part Sam, qui est une exception exceptionnelle, sont un peu plus spécialisés sur l'équipage, c'est vrai. Et la Coupe de l'Amérique, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se court en équipage depuis 150 ans, entre trois bouées, avec des engins de plus en plus rapides qui volent. Vous aviez dit aussi que le solitaire serait une spécialité française, c'est pas faux. C'est vrai que depuis à peu près une trentaine d'années, la quasi-totalité des courses en solitaire, qu'elles soient autour du monde ou entre trois bouées ou entre trois pays européens, ce qui est le cas de la course du Figaro, il n'y a que des Français qui la gagnent. Pourquoi qui les gagnent, pardon? Essentiellement parce qu'il n'y a que des Français qui viennent s'y présenter. Ça n'empêche que l'une des courses les plus importantes en équipage autour du monde vient d'être gagnée par un équipage quasiment français.
Charles Caudrelier.
Charles Caudrelier. Oui. Ah oui, il ne faut pas oublier ça. Avec un peu de Chinois, et heureusement qu'ils étaient là.
Mais avec Jérémy à bord.
Avec Jérémy à bord, justement. Il était là. Il est vainqueur de la course autour du monde. Et ça fait deux fois de suite, c'est la troisième fois en tout cas, qu'un équipage français gagne une course comme celle-là. Donc il ne faut pas trop croire que les marins français ne sont capables de faire que du solitaire. Au contraire, ils sont même capables de faire des équipages exceptionnels.
Mais alors, nous ne brillons pas encore.
Oui, Fabrice Rigobert.
Du côté de la Coupe de l'Amérique, voilà.
Fabrice, allez-y, vous allez animer l'émission avec moi parce que je ne vous vois pas. Vous voyez les invités, donc vous distribuez la parole face aux questions que je vais vous transmettre. On reçoit pas mal de questions sur le site de l'émission concernant l'équipement de tous ces participants à cette route du Rhum. Portez-vous un équipement particulier pour éviter les blessures? Parce que plus le bateau va vite et plus les blessures peuvent être graves. Fabrice,
qui veut répondre ?
Oui, moi je porte des équipements pour me protéger. J'ai un nouveau d'ailleurs que je teste. Quand il y a beaucoup de mer, je mets une casque pour aller matosser dans mon bateau, pour aller transférer le matériel d'un côté à l'autre. Parce qu'on ne voit pas les vagues et on peut se blesser dans le bateau, surtout à l'avant. Et je porte aussi des pantalons, en fait, qui sont avec, c'est comme l'armure, un peu comme les pantalons pour faire du moto, avec les genouillères, les protections un peu partout intégrées dans le, c'est un sous-vêtement pour me protéger.
Jérémy Bayou, on met même un casque parfois. Vous êtes sur un nouveau bateau du Vendée Globe avec ces fameux foils qui permettent d'aller de plus en plus vite.
Oui, alors je suis un peu en phase de découverte du bateau, donc j'ai pas tout l'équipement, j'ai pas le kit complet. Et puis Samantha, le côté anglo-saxon qui est peut-être plus réglementaire avec le casque que le côté français ou Loïc. Hein, c'est vrai qu'on est peut-être des fois un peu trop léger sur l'équipement de sécurité. Non, ce qui est important, c'est évidemment essentiellement de bien connaître son bateau, de faire les manœuvres. Lentement des fois parce que ça c'est de la sécurité et je crois que voilà Sébastien qui vient d'arriver autour de la table
Sébastien Joss, skipper de l'un des ultimes les plus grands trimarans engagés sur cette route du Rhum, sur les bateaux volants. Bonsoir Sébastien Joss.
Bonsoir.
Dangereux ou pas de naviguer sur de tels bateaux et quels sont les équipements de sécurité nécessaires, nous demandait un auditeur il y a quelques instants.
Dangereux un petit peu. Un multicoque, c'est un bateau instable et ça fait des années que je crois qu'on est au courant. Maintenant, un bateau volant, c'est pas forcément plus dangereux qu'un multicoque d'il y a 20 ans, mais il y a une certaine rigueur et attention à avoir quand on navigue sur ce genre de bateau.
D'un casque, on s'attache ?
Non, il n'y a pas besoin de casque. C'est moins violent que les bateaux traditionnels qui touchaient l'eau. On est plus sustenté justement grâce à nos foils, on s'affranchit de l'état de la mer, donc dans certaines conditions c'est même plus confortable.
Fabrice, question sur le site de l'émission, c'est Louis qui nous demande quelles sont les erreurs à éviter, les erreurs les plus dangereuses, celles qui ne pardonnent pas dans une telle compétition.
Loïc Perron, vainqueur en titre de cette route du Rhum.
Alors, ça dépend. La définition d'une victoire, en général, c'est juste une addition un peu moins lourde d'erreurs. On ne fait que cumuler des erreurs, et celui qui en fait un petit peu moins que les autres, en général, finit devant. Et la problématique des multicoques, particulièrement les trimarans ou les catamarans, et quelle que soit leur taille, c'est que justement l'erreur est assez impardonnable. Ces bateaux-là, ces fameux multicoques, sont beaucoup plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Donc évidemment, on va essayer d'éviter cette configuration, ça arrive. Et c'est arrivé souvent. Ça, et après, l'erreur sur les gros bateaux particulièrement est quasiment impardonnable. L'erreur, ça peut démarrer d'un bout, d'une drisse, vous savez, d'une ficelle qui est un petit peu mal rangée à tel ou tel endroit. Il y en a des kilomètres qui passent leur temps à bouger parce qu'il y a plein d'eau qui passe sur le pont. Et si on n'a pas vraiment bien rangé sa chambre avant chaque manœuvre, ça peut être assez catastrophique. Sur un gros bateau, sur un petit, ça va. Et il vaut mieux d'ailleurs commencer à faire des erreurs et commencer à naviguer sur des plus petits bateaux pour en faire beaucoup moins sur les gros. Donc ça peut être juste une erreur d'avitaillement, de nourriture, juste de s'hydrater un petit peu trop tard et on va finir par être fatigué et à s'endormir ou du moins ne pas être en lucide au moment où on a besoin de l'être. Il y a beaucoup de sources d'erreurs incroyables qui peuvent s'accumuler et faire en sorte que ça soit assez catastrophique par la suite.
On va aller au standard, Fabrice. Là, il y a encore des questions très précises. Hein. Quels sont les équipements techniques fondamentaux que vous avez dans votre bateau? Quelle liaison avez-vous avec la terre ferme?
Samantha Davis, vous souhaitiez apporter un élément supplémentaire par rapport à la sécurité tout à l'heure?
Oui, oui, la sécurité. Moi, je parlais de me protéger contre les bleus. C'est un truc de fille, peut-être. Mais aussi, c'est surtout sur le pont du bateau, c'est d'être attaché. Donc, ça, c'est quelque chose. Il faut pas tomber de nos bateaux. Et je porte un harnais avec un longe et je m'attache régulièrement quand je fais les manœuvres, devant surtout et sur le pont.
Jérémy Bayou, en termes de technique, on a tout à bord. Vous avez des écrans, ordinateurs, toute la technologie moderne est embarquée.
Ah oui, il y a beaucoup de technologie, énormément, limite trop des fois parce que ça demande beaucoup d'attention, de maintenance. Pour revenir à la sécurité, on a forcément des réglementations. On est tenu d'avoir tout un tas de matériel de positionnement, de sécurité pour prendre soin de soi déjà, de pharmacie, pour éventuellement prendre soin des autres et récupérer les autres si besoin était. Et on est évidemment contrôlé, c'est la direction de course qui gère tout ça et les différentes classes. Voilà, et on est formé également. On a tous autour de la table beaucoup d'expérience, mais on fait aussi des stages de survie tout au long de l'année. On part pas dans l'inconnu évidemment.
Mais vous avez connu Oui, Pierre.
Vous êtes marin ou ingénieur en technologie de pointe dans cette compétition? Les deux.
Jérémy Bayou.
Il faut être un peu les deux. Moi, j'ai pas une formation d'ingénieur. C'est évidemment pas obligatoire. Ce qui est important, c'est avant tout d'avoir une base de marin, un fond de jeu de marin, de navigateur. Et puis après, on s'entoure effectivement de personnes compétentes en électronique, en informatique, en composite, et puis on apprend sur le tas. Mais effectivement, en solitaire, il y a énormément de choses à gérer. Il faut être capable de le faire en autonomie totale. Alors après, il y a la différence entre les différentes classes avec ou sans routeur. Et donc on rajoute encore la couche stratégie, notamment en IMOCA.
Vous partirez sans routeur, Jérémy Bayou, donc vous ferez votre propre météo, à l'inverse de Sébastien Josse sur son trimaran volant, qui, Sébastien, vous aurez, vous, un routeur à terre pour vous guider, vous aider?
On aura 4 personnes à terre qui vont faire 2 binômes et qui vont se relayer tout au long de la course. Il faut voir que 6 jours, il va falloir qu'ils soient là H24, qu'on puisse me prévenir au cas où d'une collision, d'un mauvais temps, d'un grain, parce que sur nos bateaux, l'anticipation, c'est le maître mot. Et une manœuvre, c'est plus d'une heure, une dépense physique incroyable, et c'est vrai qu'on ne peut pas trop se rater sur ce genre de décision.
Pierre, pour conclure avec ce sujet, en compagnie de Loïc Perron, Loïc, vous allez partir sur le sister ship du bateau de Mike Birch, avec lequel il a remporté la première route du Rhum. Vous allez partir à l'inverse, sans aucun équipement technologique moderne. Vous allez naviguer au sextant avec ce bateau qui a permis de gagner pour 98 petites secondes il y a 40 ans.
Exactement, mais à la différence près, c'est que j'ai évidemment tout le matériel de sécurité obligatoire et dont des moyens de positionnement tout à fait modernes dont je ne refuse pas de me servir éventuellement en cas de besoin. Mais j'avais juste envie de renouer avec mes premiers amours sur l'Atlantique quand j'étais un petit peu plus jeune, et à l'époque on traversait qu'avec un sextant, une carte en papier, et c'était ce qui se faisait il y a 40 ans. Donc c'est juste une démarche très personnelle, parce qu'il y a une certaine beauté, et ça n'est compatible qu'avec un bateau qui va lentement, évidemment. C'est totalement incompatible avec des bateaux rapides. Ça ne veut absolument pas dire que je renie la technologie et la voile moderne, parce que j'ai heureusement encore une botte dans cette voile du futur.
Loïc Perron, vainqueur Pierre, il y a 4 ans.
Les auditeurs réagissent sur le site de l'émission à ce qu'a dit Sébastien Josse, c'est-à-dire que vous êtes des solitaires, vous êtes sur l'Atlantique, vous allez vers la Guadeloupe, mais en même temps, il y a des gens qui vous guident, qui sont à terre et qui sont avec vous et qui vous guident. Est-ce que c'est vraiment être solitaire?
Sébastien Josse.
Évidemment, c'est solitaire, parce que voilà, naviguer sur un bateau de 32 mètres qui peut atteindre ce genre de vitesse, traverser l'Atlantique en 6 jours, ça reste exceptionnel. Et
plus de 80 km/h, rappelons-le.
Plus de 80 km/h, donc c'est du pilotage, c'est du stress, c'est énormément d'attention. L'erreur peut être fatale, hein, en quelques secondes on peut chavirer. Voilà, et pourquoi il y a des routeurs aujourd'hui en multicoque? Je pense que ça date depuis une vingtaine d'années, justement pour des notions de sécurité. Avant tout pour que le skipper puisse se consacrer sur la conduite de ces Formule 1 qui défrichent depuis toujours les vitesses. Il y a 30 ans, les bateaux ils avançaient à 20 nœuds, et puis tous les 4 ans, les bateaux ils accélèrent. Et à côté de ça, il y a besoin d'un soutien à terre. Après, sur un tour du monde, c'est une autre histoire. Il y a plus de temps, on est un petit peu moins le pied sur le champignon, mais une route du Rhum, c'est un sprint.
Oui.
Mais dans lequel il faut savoir être endurant aussi, parce que au bout de 3 jours, il faudra qu'on dorme, même certainement avant. Et quand on dort, c'est là que l'accident peut arriver.
Alors, des appels au standard du téléphone sonne. Michel dans l'Oise. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir, merci pour la question. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces marins, qui est un terme un peu restrictif, je dirais, puisqu'ils sont à la fois ingénieux, même s'ils sont pas ingénieurs, technologues, et puis sportifs de haut niveau. Mais il y a un point qui m'étonne énormément depuis quand j'ai l'âge d'avoir admiré Tabarly et les autres. On est très très fort, ils sont très très forts en matière d'exploits et de performances individuelles. Par contre, dès qu'il y a une équipe, ils sont très très loin derrière. Mais ils sont pas deuxième ou troisième, ils sont très très loin derrière. Comme s'il y avait un plafond de verre culturel et très français, notre difficulté à travailler en équipe, est-ce que c'est ce qu'ils ressentent eux dans leur monde de marins de performance? Est-ce qu'ils ressentent ça, c'est très français, ou est-ce que c'est lié à des types d'entraînement un peu particulières?
On va vous répondre, Fabrice Rigobert est à Saint-Malo avec nos invités.
Oui, vous allez nous énerver un petit peu tout le monde.
Oui,
Loïc Perron pour commencer, Jérémy Billou également, vainqueur avec Charles Caudrelier de cette fameuse Volvo Ocean Race, donc course en équipage, Jérémy Billou.
Oui, qui s'est achevée au mois de juin avec une victoire d'un équipage franco-chinois, on va le rappeler, donc avec énormément de Français à bord. Et la Volvo Race course autour du monde en équipage deviendra une histoire française puisque Franck Camas l'a remporté 2 éditions avant, que Sébastien Joss a skippé un bateau, que la franco-anglaise Samantha était skipper sur l'édition précédente. Donc non, je crois qu'il y a de plus en plus de passerelles entre toutes les séries, les marins deviennent multicartes. Loïc en parlera également, c'est la même chose sur la Coupe de l'Amérique. Donc voilà, effectivement, la réputation du marin français, c'est d'être un solitaire, mais dans la réalité,
peut-être
c'est
faut-il gagner la Coupe de l'Amérique, Loïc Perron, pour enfin mettre un terme à toutes ces mauvaises rumeurs.
Non, parce que ça ne serait pas une preuve de compétence, et on n'a pas besoin de ce point de vue-là, mais ce serait juste une preuve d'intelligence économique, mais on en est très loin encore aujourd'hui.
Samantha Davis, quel est votre point de vue sur ce sujet, avec votre regard britannique?
Je pense que c'est un peu l'inverse. Les Français sont tellement forts à la course à large en solitaire, où l'équipage va être vite, que ça fait peut-être un ombre sur les autres performances, comme celle de Charles et Jeremy cette année en gagnant le Volvo Ocean Race. Des fois, peut-être pour les Français qui essaient de trouver une place dans un équipage anglo-saxon, il y a un petit désavantage aussi de langue, qui, je pense qu'avec les années qui avancent, on est plus en plus ouverte et capable de s'exprimer en plusieurs langues ensemble. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, les Français ils sont très forts en équipage.
Alors, peut-être Pierre que oui. Les médias ont du mal aussi français à s'intéresser aux courses en équipage international. On est très franco-français, on reste sur la route du Rhum. On reste sur le Vendée Globe, ouais. C'est une sorte de mea culpa.
Au standard, Sandrine est à Paris. Bonsoir Sandrine. Sandrine, êtes-vous avec nous en ligne sur l'antenne?
Oui, je vous entends.
Bienvenue,
oui, je suis là.
Merci d'être avec nous, d'écouter cette émission et nos invités vont vous répondre.
Alors, j'ai vu qu'il y avait 6 femmes qui participaient à cette course. Mais je voulais savoir pourquoi il y en avait quand même aussi peu qui participaient à toutes ces courses de voile en général, alors que les bateaux sont quand même plus maniables. Et par ailleurs, je voulais savoir s'il y avait plus de gamines qui s'inscrivaient dans les écoles de voile.
Fabrice Rigobert qui veut répondre.
Je vais donner la parole à l'une des six femmes engagées, oui. Samantha Davis.
Samantha Davis.
C'est plus compliqué de trouver des sponsors lorsqu'on est une femme ou pas?
Je dirais non, parce que on a souvent une très bonne retour médiatique parce qu'on est peu nombreuses, donc nos partenaires ils sont contents. Moi je suis un peu frustrée qu'on n'a pas eu un partenaire avec un projet gagnant qui veut construire un bateau neuf qui a pensé à appeler une femme. C'est, en fait, c'est là où on a un petit plafond en vert. Oui, je suis déçue qu'on n'ait que 6. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas plusieurs, parce que j'espère que je peux être la preuve. Florence Artaud, elle a déjà gagné la Haute Drôme, elle a une marque Arthur dans ces catégories aussi. Je pense que toutes les 6 femmes, je les connais toutes, on a parlé ensemble. On va essayer d'être les super role models, parce que c'est pour ça que je suis là. J'avais mes héros dans la voile quand j'étais jeune, et on va essayer de faire ça pour encourager les petites filles, les plus jeunes, et leurs parents aussi, de les inscrire et d'être à fond pour aller faire plus de voile et peut-être une carrière aussi.
Une question de Martin sur le site, il nous a écrit « Bonjour, je suis étudiant à Saint-Malo et je viens de parier contre ma mère que vous mettriez moins de 6 jours à atteindre la Guadeloupe. Est-ce que j'ai une chance de gagner ce pari ?» C'est vrai que là, on se dit que le record de Loïc Perron va être battu avec ses fameux maxi trimarans, hein, ses ultimes, ses bateaux XXL capables de voler. On va faire 6 jours et quelques.
Sébastien Josse fait oui de la tête depuis tout à l'heure.
Oui, non, évidemment. Puisque lui sera skipper de l'un de ses bateaux.
C'est possible, c'est possible. Maintenant, c'est vrai que le record, on ne court pas forcément après. C'est une course. C'est celui qui coupera la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre qui sera le vainqueur. Et après, le record, ça, pour l'instant, c'est plus du stress. On se dit que traverser en 5 jours, ça va être très, très sollicitant. Puis c'est 5 jours, 15 heures ou 20 heures. Donc. C'est l'arrivée à la tête à l'anglais, donc le temps de faire le tour de l'île, ça peut vite se transformer en 6 jours, 15 heures.
Enfin, on sait qu'avec ces bateaux qui volent, par petit temps, on va toujours plus vite qu'avec les anciens. Loïc Perron, vous êtes le détenteur du record. Vous ne chassiez pas le record lorsque vous l'avez battu il y a 4 ans.
Mais personne ne le fait pendant une course, en fait. C'est ce que vient de dire Seb, est évident. Le principe de gagner une compétition, c'est d'arriver avant le second, peu importe le temps qu'on va y mettre. Et ça dépend évidemment des conditions de météo, de l'âge du capitaine et de la hauteur des vagues, donc pas mal de variables.
Beaucoup de variables, et avec des bateaux tout de même qui ont 20% de performance en plus comparé aux anciens modèles, enfin les trimarans volants, on est d'accord?
Dans certaines conditions, bien sûr, c'est le cas. Oui, ils sont forcément plus rapides tout le temps. Dans tout petit temps, justement, sous Bastère, je ne sais pas si c'est pas forcément plus rapide que ce que c'était il y a 4 ans, je ne pense pas.
Ça sera vraiment les conditions météo qui, voilà, qui
dépassent. C'est tout le problème de ces fameux bateaux qui volent. Quand on met des ailes sous un bateau, quand on a assez de vitesse pour faire voler, tout va bien. Mais dès que...
Il faut un minimum.
Et donc les ailes deviennent un peu encombrantes quand justement elles ne servent à rien.
Alors il y a beaucoup de questions sur ces monstres des mers. On nous demande, mais d'où vient cette impression de voler sur ces ultimes?
Sébastien Josse.
C'est pas qu'une impression. C'est réel. C'est vrai que le bateau, il touche plus vraiment l'eau. On est... Voilà, avant, un bateau, il flottait sur ses coques qui généraient de la traînée. Et aujourd'hui, on a ces artifices. On a quatre petits plans porteurs qui font 4 mètres carrés. Et quand le bateau atteint les 50 km/h, il est soulagé et surélevé environ de 50 cm au-dessus de l'eau. Donc voilà, c'est comme si on était sur 4 petites lames qui s'affranchissaient de l'état de la mer.
Et ce qui est en train de se produire, Pierre Veil, pour les trimarans, pour les multicoques,
se produit sur
les monocoques. Jérémy Bayou, vous avez vous-même ces fameux foils où on soulage le bateau, la coque ne sort pas complètement de l'eau, quoique on voit certains monocoques qui... on n'est pas loin.
Ouais, c'est sûr que ça existait déjà, enfin c'est pas une nouveauté, ça a été testé sur le précédent Vendée Globe, mon précédent bateau on était équipé, qui est maintenant devenu le bateau de Samantha. Mais on a sur Charal, on a poussé forcément le bouchon un petit peu plus loin en mettant des plus gros foils. Alors on est sur un équilibre un peu plus précaire, hein, puisque là où sur les ultimes on a plusieurs plans porteurs qui permettent de stabiliser le bateau, sur un IMOCA, deux plans porteurs sont autorisés, donc on n'utilise que le plan porteur sous le vent. Et le bateau est en équilibre parfois précaire sur ce foil, un peu sur la quille. Donc le mode 100% volant, il existe dans des conditions assez maniables. Sur les conditions qu'on va rencontrer là, notamment au début de course, ça sera moins vrai, mais c'est un sacré booster, un énorme accélérateur pour le bateau en tout cas.
Voilà, et je rappelle donc que Loïc Perron avait réalisé la traversée en 2014, 7 jours, 15 heures et 8 minutes, et que Sébastien Josse semble convaincu qu'il va battre ce record cette année. Au standard, Patrick est à Rouen. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir monsieur.
Vous êtes sur l'antenne et nos invités à Saint-Malo vous écoutent.
Oui, je voulais savoir le nombre de monocoques par rapport aux multicoques et quelles étaient leurs chances de remporter la victoire ou de figurer honorablement. Merci.
À réponse à Saint-Malo, Fabrice Rigobert.
Juste un petit mot. Il y a 40 ans, il y avait encore le débat mono-multicoque, justement. Et c'est la légende de la Roue du Rhum a démarré grâce à ça. On a vu ce petit trimaran jaune arriver derrière un monocoque et le battre de 98 secondes. Le débat existait encore parce qu'il n'y avait pas de classe. Mais, et depuis, fort heureusement, on a séparé. On a mis les torchons en oifelet, les serviettes en oifelet, et on compare ce qui est comparable. Donc il y a des classes de monocoque et des classes de multicoque.
Oui, classe 40, il y a les bateaux du Vendée Globe, il y a les multi 50 et les trimarans ultimes. Et si tout va bien, la victoire doit se jouer, forcément, j'ai envie de dire, entre les cinq bateaux, les trimarans ultimes de Thomas Coville, d'Armel Lecléache, Sébastien Josse.
Il y a donc plusieurs vainqueurs de Route du Rhum depuis pas mal d'années maintenant, dans chaque classe.
Exactement. Voilà, c'est chaque classe a son vainqueur. C'est pour cela qu'on ne peut pas, les mettre tous sur le même plan.
Adeline, patiente depuis un bon moment au standard. Adeline, c'est à vous maintenant, vous êtes sur l'antenne.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir des questions un petit peu plus techniques. Vous êtes au port depuis quelques jours maintenant. Merci de nous faire rêver déjà par vos jolis bateaux dans toutes catégories confondues. Je voulais savoir quand est-ce que les commissaires de course passaient sur les bateaux au dernier moment pour vérifier tout ce qui est moteur de secours, si vous n'avez pas des passagers avec vous alors que c'est interdit. Voilà à peu près les questions.
À Saint-Malo, réponse.
Samantha Davis.
Oui, c'est une bonne question. On a des contrôleurs qui viennent vérifier, tout, comme Jérémy dit, le matériel de sécurité obligatoire. On a aussi les déclarations sur l'honneur que nous on signe, notamment dans la classe IMOCA, puisqu'on n'a pas le droit au routage, pour dire qu'on conforme à toutes ces règles. Mais ces contrôles sont finis depuis mercredi, je crois, et tout le monde est conforme. Après, pour les passagers, c'est sûr que moi, je vais vérifier dans mon bateau, puisque je n'ai pas envie. Je suis bien toute seule. J'ai quelques peluches qui vont traverser avec moi, qui sont offertes par les enfants des écoles. Mais oui, j'ai trouvé un de mes équipiers dans tout à au fond à l'arrière du bateau en train de travailler tout à l'heure. Je savais même pas qu'il était là, donc je dis je vais bien vérifier dimanche matin. Oui.
Il faudra faire attention effectivement. Ce qu'il faut signaler, c'est que 4 minutes avant le départ, il n'y aura plus aucun équipier à bord. C'est bien cela la règle, Sébastien Josse. 4 minutes avant, et ensuite on plombe également le moteur du bateau de manière à ce que tout se passe dans les règles.
Tout à fait. 4 minutes avant, le reste de l'équipage saute du bateau. Et ensuite, on met un plomb sur l'arbre d'hélice. On doit envoyer une photo et accuser réception auprès du comité de course.
Plein de questions, Fabrice Rigobert, sur le site de l'émission. Claude, quelles sont les techniques pour dormir et se reposer? Comment être vigilant quand on dort? Et puis, Michel, la gestion du sommeil, comment on fait? Autre question, avez-vous, vous les marins, une nourriture spéciale pour tenir le coup physiquement?
Jérémy Bayou.
Pour la nourriture?
Oui.
Oui.
Merci.
C'est facile. J'ai les bons petits plats préparés de bœuf de chez Charal, donc ça y est, ça s'est passé.
Voilà.
Et puis je dors bien après. Voilà. On travaille tous, on a tous de l'expérience, on essaie de partir reposer, ça c'est hyper important. Et puis après, on fractionne entre 10, 20 minutes et plus long si c'est possible.
Sébastien Josse, vous nous disiez...
Niveau nourriture,
oui,
alors, très bien gâté aussi.
Alors, lyophilisé, en général, ou
un
pas,
quelques produits frais. Chef 2 étoiles, Julien Gatillon, du Mont d'Arbois à Megève, qui s'est lancé dans l'aventure il y a 4 ans. J'ai apprécié il y a 4 ans et on a recommencé cette année.
On sait vivre. Donc Loïc Perron, vous avez remporté cette Route du Rhum il y a 4 ans. Sébastien Josse confiait, comme Jérémy Bayou, on dort 10 à 15 minutes par-ci par-là et guère plus d'affilée dans une journée.
Si on essaye d'enchaîner ces petites séquences de quelques minutes, c'est vrai. mais on arrive à dormir un petit peu plus. Il faut d'ailleurs, hein, c'est
un problème. Plus tard, dans les Alizés peut-être.
Oui, mais il faut essayer. C'est vraiment se mettre en danger que de ne pas dormir, ça c'est sûr. Mais
combien aviez-vous dormi?
Ça dépend. Moi, j'ai un philosophe très important qui s'appelle Jason Bourne qui a dit que le sommeil était une arme et je m'en inspire tous les jours.
Mais alors, il y a beaucoup de questions sur le sommeil, Fabrice Rigobert. Quand vous dormez, qu'est-ce qui se passe? Le bateau est en pilote automatique? Qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil du skipper?
Oui, le bateau est en pilote automatique, un peu comme les avions. On peut régler ça très bien. D'ailleurs, mon pilote, il bat quasiment mieux que moi, ce qui est top. Donc, moi, avec Loïc, je suis d'accord. Il faut bien dormir pour être performante. Et puis, ouais, du coup, je mets beaucoup d'alarmes. Donc, j'ai même enregistré des alarmes différentes parce qu'il y a tellement, ça sonne partout, tout le temps. Je ne sais pas laquelle est laquelle. Donc, j'ai même... enregistrer les voix de mon bureau, la fille dans mon bureau d'études, en train de dire c'est trop, quand je charge trop le bateau.
Pour vous réveiller.
Ça peut arriver. Pour réveiller, surtout pour les collisions aussi, parce que, donc il faut avoir une veille technique, donc on a le way down, le balise, pour éviter toute collision éventuelle.
Loïc Perron qui s'était endormi il y a 4 ans à la barre.
Alors, en fait, je voulais dormir vraiment, et les 48 premières heures, à cause de l'état de la mer, ce qui risque d'être un peu le cas peut-être cette fois-ci, le Banque Populaire sur lequel j'étais là, avait un petit défaut, entre autres, c'est que les flotteurs rentraient en vibration de manière assez incontrôlable, et donc impossible de s'asseoir, ni même de s'allonger. Donc j'ai décidé de barrer, je me suis vraiment endormi à la barre, ce qui n'est pas bien. Et j'ai eu vraiment pas peur à ce moment-là, mais peur au moment où j'allais m'endormir, au troisième jour, de ne pas me réveiller suffisamment, de ne pas être en état de veille. Je me suis mis en danger, vraiment. Je le savais que je me mettais en danger, mais ça s'est bien passé cette fois-ci. Mais on sait très bien, hein, quand la dette de sommeil est indispensable pour dormir, pour s'endormir, évidemment. Mais il ne faut pas aller trop loin. En fait, la problématique du sommeil quand on est en solitaire, c'est un sentiment de culpabilité. Je ne sais pas si on partage tous le même sentiment, mais on se met en danger, évidemment. Donc on est obligé de réduire un petit peu, de ralentir un tout petit peu, de se mettre dans une position un peu moins inconfortable. Dès lors, on culpabilise parce qu'on sait qu'on va moins vite que si on était dehors, en veille. Et la culpabilité ne favorise pas l'endormissement. Dormir, tout le monde sait faire. S'endormir, dans un milieu hostile, sur ces bateaux-là, c'est très difficile.
Voilà, cours de sommeil, signé ouais. Loïc Perron.
À Bergerac, Bruno écoute l'émission et veut intervenir. Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir.
C'est à vous.
Alors, j'ai suivi l'émission et ce qui me frappe chez vos invités, c'est qu'ils restent très humbles par rapport aux exploits. On peut parler d'exploits, je pense. Qu'ils réalisent. Et je posais la question à savoir est-ce que c'est lié aux gens de mer et peut-être lié au fait que la nature est tellement forte qu'ils se rendent compte que s'ils arrivent à la vaincre, entre guillemets, ça leur permet de se réaliser, en quelque sorte. Et surtout, il y avait une réflexion d'un des invités qui disait que le coup, c'est pas de gagner en moins de 6 jours, par exemple, pour battre le record de Loïc Perron, mais c'est aussi de gagner de... Voilà, c'est une course, c'est pas simplement aller vers quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils peuvent faire.
C'est le fait de traverser l'Atlantique en solitaire, et rien que de faire cela, qu'on soit 20e, 30e, 40e, 50e, c'est un exploit. Les marins n'ont pas la grosse tête, Fabrice Rigobert, vous confirmez?
Non, ils n'ont définitivement pas la grosse tête, ça c'est sûr, pour avoir l'expérience, l'avantage de côtoyer d'autres sportifs que dans le monde de la voile. Oui, ils sont différents, très clairement. Qu'est-ce qui vous rend si humble, Sébastien Josse?
L'élément naturel. C'est vrai qu'on peut numériser nos bateaux, les prévisions météo, l'état de la mer. Mais quand on est... quand on sera lundi soir dans 35 nœuds, 8 mètres de houle, on est face à soi-même, à ses compétences, à ses limites.
Ça fait peur, hein.
Mais je pense qu'on a tous un petit peu ça.
C'est vrai.
Voilà, quand on part, on a toujours l'appréhension, on n'est pas en maîtrise parfaite de notre sujet. On fait avec notre expérience et avec notre humilité. On fait le dos rond et il y a des fois, vraiment, on peut se permettre d'attaquer et faire de la compétition.
Samantha Davis?
Je pense qu'on a de la chance aussi d'être parmi les derniers aventuriers. On est tous compétiteurs autour de cette table, mais à la fin, on part tous aussi pour une aventure. Je pense qu'on sait tous qu'il va y avoir les choses qui nous arrivent qu'on ne sait pas. On n'a pas trop envie de savoir non plus, mais on va gérer. Et c'est ça aussi partie de l'aventure et on est tous ensemble dans ce cas-là. Donc, et on a tous la chance d'être là.
Et la peur est là, elle est présente. Il faut savoir la dominer chez vous.
Loïc Perron.
Oui, il vaut mieux. Oui, il faut avoir conscience des dangers qu'on va affronter. Les inconscients ne durent pas très longtemps en général dans cette activité-là comme dans beaucoup d'autres. Il y a une grande conscience, il y a très peu de casse-cou dans cette corporation extrêmement large, hein, paradoxalement. Alors c'est vrai qu'on a des seuils de tolérance qui sont un peu élevés par rapport à la moyenne, on est d'accord.
Par rapport à la personne normale, oui.
Mais il y a une chose importante que l'auditeur nous posait comme question, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de gagner pour réussir. On a cette chance incroyable sur l'eau, ce qui n'est pas toujours donné à tous les sports. On fait souvent la prime aux vainqueurs dans plein de sports, mais en mer, particulièrement sur ces courses offshore un peu longues, il y a une aventure qu'on partage, quel que soit le résultat. Alors évidemment, le travail est nettement plus considérable et les compétences nécessaires pour gagner sont rares. En ultime, je ne connais pas plus de 5 personnes sur la planète Terre capables de mener ces bateaux-là. Vraiment, hein. C'est assez exceptionnel ce que font ces garçons-là sur ces grands multicoques, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche que voilà, on partage avec des amateurs, c'est ça ce qui est beau aussi sur cette route du Rhum, c'est une transhumance organisée tous les 4 ans,
ouais.
Qui fait qu'on mélange des passionnés avec des niveaux de compétences très très différents à des années-lumière, mais on a le même amour, le même respect pour cet élément que l'on va non pas affronter, mais essayer, ni même dompter, mais tout juste essayer de contourner parfois.
Dernier appel, Isabelle à Saint-Malo, eh bien voilà, bonsoir
oui.
Isabelle.
Bonsoir, je vous remercie. Je voulais juste poser une question sur le futur de la course quant au départ de Saint-Malo. Parce qu'en fait, j'ai lu dans le journal de Ouest-France il y a 3 jours que le départ de 2014 déjà avait été compromis parce qu'on a un projet de moule en filière entre Cancale et Saint-Briac et qui donc indiquait que le directeur de la course pensait que le départ pourrait pas se faire du Cap Fréhel entre Cap Fréhel et la Pointe du Groin. Et là, il y a actuellement un projet qui est gigantesque et qui va bouleverser beaucoup la situation sur la côte, sur le littoral. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations sur ce sujet.
Fabrice Rigobert.
À mon sens, pas d'informations qui puissent mettre en péril de manière définitive le départ de la route du Rhum. C'est un événement qui rassemble plus de monde encore qu'il y a 4 ans. Et on trouvera toujours des solutions et des parcours différents pour faire en sorte que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles, quels que soient les aménagements qui peuvent être envisagés.
Fabrice, et juste un mot, il y a des mesures de sécurité exceptionnelles qui ont été prises pour suivre les navigateurs après le départ, hein, dans les premières heures.
Oui, il y a de nombreux bateaux accompagnateurs qui vont être cantonnés assez loin des bateaux de course pour éviter, justement, sachant qu'il y en a 123 concurrents, pour éviter les collisions, tout simplement. Heureusement, l'état de la mer, au départ, devrait permettre aux bateaux les plus rapides de partir suffisamment vite pour, justement, éviter ces dangers.
Formidable. À Saint-Malo, c'était le téléphone sonne avec nos invités Fabrice Rigobert et puis les concurrents. Ils vont partir et on les admire parce qu'il faut le faire. Hein. Loïc Perron, Jérémy Bayou, Samantha Davies et Sébastien Josse. Le téléphone sonne. À la technique ce soir, il y avait Romain Mahé, Nicolas Cazot, Henri Bérec, la réalisation, Benjamin Riquet.